Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Là-haut sur la colline. Embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
On apprenait aujourd'hui que la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, ne reprendra pas l'idée de placer les sièges au Salon Bleu en hémicycle. C'est une idée qui circulait là, notamment sous François Paradis, son prédécesseur. On en parle avec une ancienne ministre de la Culture. Bonjour, Christine Saint-Pierre.
Bonjour.
Ancienne députée de l'Acadie aussi. Donc, l'hémicycle, est-ce que ça vous plaisait, vous?
Pas du tout.
Non, hein?
je salue cette décision de la présidente de l'Assemblée nationale parce que c'est pas une forme de parlementarisme. Des hémicycles, on les voit lorsqu'on va en Europe, on les voit, les hémicycles, et c'est pas notre façon de faire du parlementarisme. On a une tradition britannique et lorsqu'elle parle du face-à-face, c'est-à-dire le gouvernement et l'opposition officielle, l'opposition qu'on dit l'opposition de Sa Majesté, mais on parle de l'opposition officielle.
Ouais.
En face à face, je pense qu'elle a vraiment, vraiment raison. C'est ce qu'il faut. Il faut garder ce mode-là de discussion à l'Assemblée nationale, de débat à l'Assemblée nationale.
C'était populaire quand même, l'hémicycle, jusque dans le projet de réforme parlementaire de Simon-Jolin Barrette, déposé il y a 2 ans. Il citait Louise Arel à ce moment-là, la première femme présidente de l'Assemblée nationale, qui disait que avoir comme ça deux blocs qui s'affrontent, ben ça n'aide pas, et là je la cite au texte, au bon déroulement des travaux. Pensez-vous qu'on aurait pu pacifier les travaux en faisant un hémicycle?
En fait, moi, ma vision des choses, c'est le pouvoir que peut avoir l'opposition officielle. C'est le seul endroit à l'Assemblée nationale où l'opposition officielle peut faire valoir son point de vue. Et c'est à la présidence aussi de calmer le jeu lorsqu'il est important de calmer le jeu et de rappeler à l'ordre les députés et les ministres et de leur dire, bien, baissez le ton, puis ayez plus de courtoisie avec vos avis. Alors moi, je ne vois pas pourquoi on aurait changer la façon de placer les pupitres à l'Assemblée nationale.
En plus, c'est très...
J'ai salué la décision de la...
Ben oui, mais c'est très turbulent aussi dans plein d'hémicycles. Vous avez déjà été correspondante à Washington. Ça s'engueule en maudit. Oui, au Sénat et à la Chambre des représentants.
Beau, je l'ai vu au Parlement européen aussi.
Ben oui.
Lors du débat sur l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, j'étais là et j'ai vu les discours. Mais je pense que pour nous, notre façon de faire les choses, c'est la façon, l'aménagement qu'on a présentement à l'Assemblée nationale. Il y a des débats, bien sûr. On a eu des débats quand on était au caucus. Je plaidais pour qu'on garde la forme actuelle. D'autres, au sein du caucus, disaient qu'il fallait peut-être se moderniser davantage. Alors, il va y avoir des débats. Je ne suis plus là et je ne ferai pas trop la belle-mère. Mais moi, lorsque j'étais dans le caucus, je plaidais pour qu'on garde la configuration actuelle parce que je considère que c'est notre façon de faire du parlementarisme chez nous. Alors, peut-être que ça va changer. Un jour, mais pour le moment, la présidente de l'Assemblée nationale prend, à mon avis, la bonne décision.
Les pupitres, selon vous, là, qui avaient été ministre de la Culture, les pupitres qui datent du 19e siècle, il me semble qu'ils sont patrimoniaux. Et là, elle dit, on va peut-être arrondir les coins quand même, dit-elle.
Ça
veut dire qu'il y aurait quand même des pupitres qui sauteraient ou qui seraient transformés ou je ne sais pas en quelle matière ils seraient. Serait-il encore en bois ou est-ce qu'on mettrait les vieux pupitres? Est-ce qu'on n'est pas un peu désinvolte à l'Assemblée nationale face au patrimoine? C'est pas n'importe quoi, c'est le sanctuaire de la démocratie.
Bon, moi, je suis de la vieille école et je pense que ces pupitres qui sont, à mon avis, patrimoniaux, il y a énormément d'histoire au sein du Salon Bleu de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, il y a 65 pupitres qui sont les tout premiers pupitres. Ensuite, on en a ajouté parce que maintenant, nous sommes 125 députés à l'Assemblée nationale, mais vous avez des pupitres d'origine et vous avez des pupitres de grands premiers ministres qui sont là à l'Assemblée nationale. Alors, pour moi, je pense qu'on doit conserver, je pense que ce sont des objets patrimoniaux, ce sont des objets qui représentent l'identité du Québec et il faut les garder. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une modernisation électronique peut-être qu'il faut apporter. Alors moi, je me fie à des ingénieurs et à des architectes pour imaginer comment on peut mettre un peu plus de modernisme dans la façon de voter là électroniquement ou parce que vous savez, quand on veut brancher quelque chose, il y a des grands fils qui circulent partout. Il faut savoir aussi qu'à l'Assemblée nationale, au Salon Bleu, les 125 députés ne sont pas là à temps plein. Là. Les moments où la salle est complètement est pleine, les députés sont tous là, sont pendant les périodes des questions, le discours inaugural, le discours du trône, des votes. Ce sont les seuls moments où tout le monde est dans le Salon Bleu de l'Assemblée nationale qu'on ne vienne pas me dire que ça déborde complètement. Alors, il y a quelque chose là-dedans, je pense, qui est historique dans ces objets-là et que la présidente de l'Assemblée nationale, et je me fie sur elle a été ministre de la Culture, elle comprend l'importance que revêt le patrimoine pour les Québécois et les Québécoises. Monsieur Legault parle beaucoup de la fierté des Québécois, mais la fierté, c'est dans notre patrimoine aussi et dans notre histoire, et notre histoire, elle est là. Le site de l'Assemblée nationale, le site du Parlement, le grand site, c'est le seul site classé patrimoine national au Québec.
Ah bon?
Alors, c'est un site classé, il y a des sites patrimoniaux.
Mais Christine Saint-Pierre, si c'est classé patrimoine national, comment a-t-on pu briser la fontaine des Abénakis juste à la porte de l'Assemblée nationale?
Alors, vous avez une excellente question parce que c'est très clair dans la loi qu'il faut une autorisation pour procéder à des aménagements extérieurs, entre autres. À l'intérieur, la loi est pas claire là-dessus.
Ah.
On parle d'autorisation pour des démolitions, des excavations et sur le site de l'Assemblée nationale. Moi, je m'étais posé la question d'ailleurs à l'époque, comment on a pu modifier. Est-ce qu'on est allé chercher des autorisations parce que la loi, quand même, du patrimoine culturel existe et elle existe aussi pour le Parlement, pour le site de l'Assemblée nationale, le site du Parlement, tout le site, là, les édifices autour, ce sont des bâtiments patrimoniaux.
Mm-hmm.
Alors, pour moi, dans mon livre à moi, bien, il faut aller chercher les autorisations et j'espère qu'ils vont aller chercher les autorisations s'ils veulent faire quelques changements que ce soit dans la configuration à l'intérieur du Salon Bleu.
Vous avez aussi été ministre de la Condition féminine. Le 8 mars, il n'y a pas eu de motion. En tout cas, il n'y a pas eu de motion pour ce 8 mars 2023 en raison d'une querelle de féminisme intersectionnel contre universaliste. Qu'est-ce que vous pensez de l'absence d'une motion cette année? C'est pas unique, ça?
J'ai été très déçue. J'ai écrit d'ailleurs un article pour le magazine L'Actualité, le site web, sur cette question-là. J'ai été très déçue. Je suis remontée jusqu'à 20 ans, là, jusqu'à 2002, et c'est jamais arrivé qu'il n'y a pas eu qu'une motion sur le 8 mars a été rejetée par l'Assemblée nationale. Et c'est d'autant plus frustrant et étonnant que c'est la première fois qu'il y a autant de femmes à l'Assemblée nationale.
Mm-hmm.
Alors, je pense qu'on devrait, lors d'une motion, trouver des compromis. Et bien sûr, à la décharge de la ministre, elle était en mission à l'étranger, puis elle était en mission en Asie. Peut-être que le décalage horaire a fait qu'elle n'a pas été consultée. Mais moi, je pense qu'on aurait dû trouver un compromis. Je me suis informée auprès de la députée Rouba Gazal qui était porteuse de la motion. Est-ce qu'on a proposé un libellé d'amendement? Est-ce qu'on a cherché un compromis? Et elle m'a dit non, on voulait tout simplement biffer le paragraphe. Alors, c'est triste. Et c'est étonnant aussi parce que le mot intersectionnel, intersectionnalité, se retrouve dans la stratégie gouvernementale qui a été déposée au mois de juin. Alors, c'est pas vu, là.
Mm-hmm.
Stratégie 2022-2027, on parle d'intersectionnalité, on dit qu'on doit étudier cette question-là en profondeur, on parle de mettre en place des projets pilotes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de la discrimination entre des femmes, entre les femmes elles-mêmes. On parle de discrimination basée sur qui peuvent être des femmes racisées, par exemple, vivent plus grande discrimination que les femmes blanches. Et c'est un peu ce concept-là qui
toujours, est toujours. Est-ce qu'il y en a pas qui sont aussi plus
Elles ont plus de défis. Elles ont des défis.
Mais toujours dans tous les cas.
Ben, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, mais les femmes racisées, les femmes qui sont les femmes autochtones, il y a des cas qui démontrent qu'elles sont plus discriminées que les autres. Mais là, je ne dis pas que ça doit devenir un dogme, mais ce que je dis, c'est que puisque la stratégie du gouvernement a abordé cette question-là, est-ce que ça veut dire que maintenant on fait une croix sur la stratégie gouvernementale et qu'on ne fera pas ces projets pilotes? Ça, c'est la question que je me pose. Et je me dis qu'on aurait pu trouver, et c'est souvent le cas lorsque des motions qui portent un peu, qui peuvent mettre, où le gouvernement se sent peut-être un peu dans l'embarras en adoptant la motion telle qu'elle, on cherche un compromis, on cherche un libellé pour arriver à une motion. C'est ouais. le 8 mars cette année.
L'ennui pour le gouvernement, probablement, Christine Saint-Pierre, c'était la laïcité. On est en... Évidemment, la loi sur la laïcité est contestée,
C'est ce que certains disent, parce que les opposants à la loi ont plaidé devant les tribunaux que cette loi venait brimer les droits des femmes musulmanes qui portent le voile, et que c'était la question, et elle relevait la question de l'intersectionnalité. Alors, peut-être le gouvernement a vu dans le geste d'adopter la motion telle qu'elle un affaiblissement de sa position devant la Cour d'appel du Québec. Mais je dis à cela, je réponds à cela, lorsque vous avez déposé votre stratégie en juin 2022, vous étiez déjà devant les tribunaux. Mm-hmm. Donc, il aurait pu y avoir un libellé, à mon avis, qui aurait fait référence au projet pilote et à la stratégie. Mais je ne veux plus faire la belle-mère.
Non.
Mais ce sont des questions, bien sûr, qui m'intéressent.
Mais ce n'est pas faire la belle-mère. C'est pas faire la belle-mère. Vous avez toute une expérience en politique puis en journalisme aussi. Mais.
Le féminisme, juste pour ajouter, le féminisme, ce qu'on dit universaliste.
Oui.
Le féminisme qui fait référence au droit universel. Le féminisme intersectionnel, bien là, on vient regarder quelles sont les formes de discrimination que certaines femmes pourraient avoir. Et cette intersectionnalité-là, elle vient d'une grande avocate afro-américaine qui avait développé cette approche-là dans les années 80. Alors, ça remonte à assez loin.
Qui est critiqué ce matin dans les pages du Devoir par un des fondateurs de Québec solidaire, Pierre Moutarde. Je vous invite à lire le texte. C'est intéressant. C'est une autre... c'était un peu imprévu. En terminant, Christine Saint-Pierre, dites-moi, êtes-vous désintoxiquée de la politique? Parce qu'on parle toujours de ça. Là, j'en ai parlé hier avec Paul Robitaille qui était ici en studio. Est-ce qu'on a besoin de se désintoxiquer de la politique? Moi, je pense que non. Mais est-ce que... Comment vous vivez votre vie post-politique?
Oui. Oui, on a besoin de cette faut prendre un pas de recul. C'est-à-dire, je me désintéresse pas à la politique, je me désintéresse pas à l'information, je lis beaucoup, mais il faut se désintoxiquer de la partisanerie.
Ah,
il faut saluer les beaux gestes quand il y a des beaux gestes, puis quand que ces gestes-là viennent de notre formation politique ou pas. Et si ce sont des gestes qui sont critiquables, il faut réussir aussi à se détacher de la partisanerie, puis voir aussi comment on peut dire bien telle chose ou telle déclaration, ce n'est pas la bonne déclaration. Mais en même temps, il faut aussi se sortir de, je dirais, de ça devient parfois, je vais dire en guillemets, là, un petit peu toxique, là, les débats à l'Assemblée.
Toxique?
Oui. Toxique dans le sens qu'on on s'aime pas, puis on garde l'autre comme un ennemi. Alors, il faut se calmer par rapport à cela.
Puis vous aviez pas la langue dans votre poche, là, vous, Christine Saint-Pierre.
Non. il faut prendre un bon pas de recul. Puis moi, je veux continuer à contribuer à la société québécoise, mais je veux continuer à contribuer d'une autre manière et de dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, mais de le dire différemment en ayant aussi des arguments qui sont très factuels, très solides et qui ne sont pas uniquement des arguments qui sont les arguments de ma formation politique.
Ben, vous l'avez fait aujourd'hui, Christine, à ce micro. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, puis à la prochaine peut-être.
À la prochaine, certainement, Christine Saint-Pierre, ancienne ministre de la Culture et ancienne députée de l'Acadie. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la Colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais c'est aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.